46 titres forestiers sur 156 jugés convertibles en contrat des concessions forestières. C'est la conclusion du rapport sur les travaux de conversion des titres forestiers. Le ministère de l'Environnement et Conservation de la Nature a présenté ce rapport le lundi 6 octobre dernier à l'hôtel Venus. Pour José Ndundu, ces travaux constituent un pas des géants de la RDC dans l'assainissement du secteur et dans la conservation de la richesse biodiversité. Que prévoit ce rapport en ce qui concerne la concrétisation de ce processus de conversion des titres forestiers? Ce rapport prend-il en compte les intérêts des communautés locales? Réponse avec notre invité Ilanga José, conseiller au ministère de l'Environnement et du Tourisme en charge des forêts. Monsieur Ilanga, bonjour.
Bonjour,
c'est le journaliste. Je veux dire que ces changements, c'est fait sans accroc, sans croire que tout se passe normalement.
Ben, jusqu'à là, tout s'est passé normalement parce que les travaux se sont déroulés conformément à l'esprit de décret 05/16 déjà 4 octobre 2005, décret présidentiel, je l'ai dit par là, et jusqu'à ce stade, et jusqu'au moment de la publication des résultats.
Aucun incident n'est signalé. Nous allons revenir à vous dans quelques instants, monsieur Ilanga. Il est temps pour nous de faire le point avec notre confrère d'ACO, Tambikina, qui s'est penché sur la question. D'ACO, bonjour.
Bonjour, Gilles.
Alors, ce rapport sur la conversion des anciens titres forestiers apporte exactement quoi de nouveau?
Oui, Gilles. Il faut rappeler que jusqu'en 2002, la gestion des forêts en République démocratique du Congo était régie par un décret colonial datant d'avril 1949. Devenu obsolète, ces textes étaient remplacés dans la pratique par un document technique intitulé le guide de l'exploitant forestier qui n'avait pas de statut juridique précis. Ce rapport vient donc établir des règles qui permettront une gestion durable de nos forêts. Avec les conclusions de ces rapports, il y a désormais une sécurité juridique tant pour les exploitants que pour l'État congolais. Précisons que ce rapport tient également compte des intérêts des communautés locales. Suivant à ce propos José Ndundu, ministre de l'Environnement et Conservation de la Nature, au micro de René Capita.
En sorte qu'on établisse des règles qui permettent une gestion durable. Qu'est-ce qui se passait aujourd'hui? Il y avait des exploitants forestiers qui se disaient « j'ai un contrat qui demain peut sauter ». Il n'y avait pas de sécurité juridique. Désormais, il y a une sécurité juridique. Et si vous avez une sécurité juridique, vous travaillez dans la durée, vous ne travaillez pas à coup de destruction, vous travaillez avec un plan d'aménagement en tenant compte du zonage qui doit se faire. Lorsque vous avez une forêt sur 25 ans, vous savez que vous pouvez revenir 25 ans après sur la première portion que vous avez exploitée et vous trouverez que l'arbre a repoussé. Donc c'est une gestion où on tient compte du renouvellement de la forêt qui est un organisme vivant. Après cette phase, vont maintenant s'appliquer des mesures qui assureront le contrôle, la qualification et la certification du bois congolais. Aujourd'hui, il est quasi impossible de savoir exactement ce que nous exportons. Nous allons, dès le site de production, essayer de voir, d'analyser et de comprendre ce qui se passe dans l'exploitation forestière. Et bien entendu, à l'exportation de ce bois, qu'est-ce qu'il y a comme retombée pour l'État congolais, pour les provinces, comme vous le savez. Donc tout cela fait partie d'une vraie stratégie dont on verra progressivement les fruits au cours de l'année prochaine.
Voilà, attendons voir l'année prochaine, si réellement il y aura des fruits. Et comment alors les intérêts des communautés locales sont-ils pris en compte dans ce rapport d'accord?
Avant toute chose, JR, il faut préciser plutôt à nos auditeurs que ces rapports s'inscrit dans les soucis du gouvernement congolais de développer sa propre vision de la gestion forestière. L'idée est d'accroître la contribution de la manne forestière au développement économique et culturel des générations présentes et futures. Pour revenir à votre question, JR, ces rapports et de l'approbation par les populations locales et autochtones des cahiers des charges sociales et environnementales des exploitants, un du préalable pour toute signature des contrats de concession avec l'État congolais. Je vous prie de suivre une fois de plus, José Ndundu.
Aucun contrat ne sera signé sans que le ministre ne se réfère à l'avis conforme du cahier de charges. La population négociera avec l'exploitant forestier les conditionnalités pour lesquelles elle accepte que le contrat soit signé. Le gouvernement veillera avec ses populations à ce que les engagements des deux parties soient respectés. Ensuite, avec la vision de la politique de la gestion de la forêt, il va y avoir des retombées financières considérables. Je ne désespère pas de faire du ministère de l'Environnement. En tout cas, c'est ce que j'ai poursuivi pendant mon mandat ici à la tête de ce ministère. Je ne désespère pas que ce ministère soit les premiers contributeurs au budget de l'État. Avec ces moyens, nous pouvons assurer le contrôle de la gestion forestière, nous assurer du fait que les populations voient que les cahiers de charges sont respectés de part et d'autre. Et je pense que nous ne sommes qu'au démarrage d'un vaste et immense programme pour gérer la deuxième forêt mondiale tropicale, qui est la forêt congolaise.
Alors, peut-on connaître les recommandations de ce rapport ?
Tout à fait, Jules. En résumé, la commission interministérielle chargée de la conversion des titres forestiers en contrat des concessions forestières a reçu 56 requêtes de conversion pour les 6 provinces forestières de la RDC, à savoir le Bandundu, le Bas-Congo, la province de l'Équateur, les provinces du Kasaï oriental occidental et la province orientale. Et bien, au terme des travaux abattus par cette commission interministérielle, seuls 46 titres forestiers sur les 156 ont bénéficié d'un avis favorable de la commission. Ils concernent particulièrement les provinces du Bas-Congo, du Bandundu, de l'Équateur et de la province orientale.
Que deviennent alors les exploitants dont les titres forestiers n'ont pas bénéficié d'un avis favorable de la commission d'accord ?
Ils vont être délégués de 15 jours à dater d'ici octobre dernier, pour formuler par écrit leurs observations sur les recommandations de la commission et déposer en même temps leur recours. Précisons que la date limite des dépôts de recours par les requérants est fixée au 22 octobre prochain à 18h. Ceci pour permettre à la commission interministérielle de se réunir à partir du 27 octobre 2008 afin de délibérer. Il faut également ajouter que la signature des contrats des concessions forestières entre l'État congolais et les concessionnaires dont les titres ont été jugés éligibles ne pourra être effective une fois que les cahiers des charges sociales et environnementales des concessionnaires seront avalisés par les communautés locales.
Alors d'accord, peu de titres ont eu l'aval de la commission interministérielle. Comment les exploitants forestiers ont accueilli les recommandations de ce rapport ?
Pour les représentants des exploitants forestiers qui a participé à l'élaboration de ces rapports, il n'y a pas eu de favoritisme. Pour lui, ces rapports ont été élaborés avec un élan de justice. Je vous propose de les suivre.
Mais je crois que le ministre, il a expliqué en détail vraiment quel a été le système de vérification de la commission. Donc tous ces critères qui ont été mis, nous les avons examinés au fond. Et donc, il se peut qu'il y a des sociétés qui ont un simple document qui manque dans leur dossier. Mais il se peut aussi que, et ça vous allez voir quand les résultats seront publiés, qu'il y a plusieurs critères qui n'ont pas été respectés. Donc, nous avons fait notre travail vraiment en tout calme et d'une façon très équitable pour tous les exploitants. Donc, il n'y a pas eu de favoritisme ni pour l'un ni pour l'autre. Cette conversion, c'est le premier pas. Et je crois qu'on doit assumer, donc après qu'elle a terminé sa deuxième saisine, que les sociétés passent tous du même pas. C'est-à-dire, nous savons qu'ils sont constitués d'une façon légale, que leur titre est légal, qu'ils signeront un contrat qui est uniforme pour tout le monde et qui incorpore le cahier de charges. Donc ça, c'est la nouveauté. Donc le cahier de charges qui va être élaboré, c'est celui-là qui va servir pour les premières années.
Voilà, beaucoup de choses. Que pensent les ONG évoluant dans le secteur de l'environnement de ce rapport ?
Pour le représentant du point focal national du réseau des ONG évoluant dans le secteur de la préservation de l'environnement, ce rapport démontre de façon claire le sérieux et la volonté du gouvernement d'assainir ces secteurs. Il constitue donc une réponse aux revendications locales. Je vous prie de suivre Flori Botamba, représentant du point focal national.
Je crois que ça démontre de façon claire le sérieux, mis à la fois par les groupes techniques de travail et surtout par la commission interministérielle, qui n'a pas regardé les intérêts seulement d'un côté, mais qui a tenu compte des intérêts de toutes les parties prenantes. Et en même temps aussi, il fallait aussi aller vers la transparence dans la gestion forestière et la bonne gouvernance. Je crois que c'est un bon sujet de lancement, un bon moment pour la gouvernance forestière. Ce qui vient de se passer, c'est déjà une réponse aux revendications des communautés locales et autochtones. Mais ensuite, il y a un autre aspect Donc, puisque le contrat n'est pas signé, il y a un aspect du contrat qui exige qu'il y ait un cahier des charges discuté et décidé d'un commun accord entre l'exploitant et les différentes communautés. Donc, nous allons vers cela et ce sera un cahier des charges reprenant les intérêts de toute la communauté impliquée et non d'un individu ou bien d'un groupe d'individus. C'est là la différence. Donc, le contrat ne sera signé que lorsque cet aspect-là est rencontré parmi tant d'autres.
Voilà, on va mettre fin à cet entretien avec vous, Dako. Avez-vous autre chose à ajouter? Sinon, on accorde la parole à notre invité, M. Ilala.
Si, j'ai quelque chose. Il faut préciser aux auditeurs que l'opérationnalisation de ces vastes processus de conversion des titres forestiers en contrat des concessions forestières est effectuée en quatre étapes principales, à savoir la demande de conversion par le requérant, personne physique ou morale, la vérification documentaire et technique par les groupes techniques de travail constitués des représentants de l'administration forestière et fiscale, l'identification par la société civile des représentants de la population locale et autochtone habitant les sites et des titres visés par la conversion, l'examen par la commission interministérielle des conversions des titres forestiers, des rapports de vérification technique du groupe technique de travail et du rapport intérimaire de l'expert indépendant.
Voilà, merci Dako, vous à la prochaine.
Je vous en prie, JR.
Plus d'informations, plus de sport, plus de culture, plus de musique, pour plus de plaisir sur Radio Okapi en onde courte, tous les matins de 5h à 7h, heure de l'Ouest, 6h, 8h à l'Est, sur 9635 kHz. Et tous les soirs, de 17h à 18h, heure de l'Ouest, 18h, 19h, heure de l'Est, sur 11890 kHz. Pour vous bouger, nous bougeons avec vous.
Nous avons dans ce studio Ilanga José, conseiller au ministère de l'Environnement et du Tourisme en charge des forêts. Monsieur Ilanga, rebonjour.
Rebonjour, monsieur le journaliste.
Alors, nous sommes avec vous. Vous pouvez nous confirmer qu'effectivement la commission statuant autour de la question sur la conversion des anciens titres forestiers en contrat des concessions forestières a travaillé en toute impartialité.
Je ne peux que vous confirmer ça parce que bon, j'ai suivi les uns et les autres. Je peux au moins vous affirmer que le travail s'est réalisé en toute transparence par le fait qu'il y a eu la participation de toutes les parties prenantes. Quand je dis les parties prenantes, il y a le secteur privé. Vous avez suivi Madame la secrétaire générale de la Fédération des industriels du bois. Sa position a été claire. Il y a eu la participation des délégués des communautés locales qui sont concernées par les titres qui avaient été soumis à la conversion et dont la sélection avait été faite par la société civile, pas par le ministère de l'Environnement. Il y a eu l'administration publique. C'est dire que toutes les parties prenantes ont pris part aux travaux de la conversion. Et la conversion s'est faite conformément aux deux textes légaux, dont le code forestier et les décrets présidentiels 05/5. Donc, je peux vous affirmer que
c'était en toute
transparence et sans partie.
Voilà. Alors, 156 exploitants forestiers au départ. Et aujourd'hui, vous ne retenez que 46. Ce n'est même pas la moitié. C'est qu'on peut dire que l'exploitation se faisait pas en tenant compte des normes ou carrément une exploitation sans que l'État puisse être regardant.
Bon, juste un petit.
Parce que là, on se rend compte que c'est comme si vous avez renégocié le contrat. Voilà. Donc.
Ouais, juste un petit plus. En fait, il y a eu 156, mais il n'y a pas eu 156 sociétés. Donc, une société pouvait en détenir une dizaine, une vingtaine de titres forestiers. Et ce sont les sociétés qui ont respecté les conditions, les quatre conditions. On a dit avoir un dossier administratif complet et qui reflète qu'effectivement, la société, personne morale ou physique, a les statuts. Dans ces statuts, on mentionne l'exploitation forestière. C'est dire que les titres avaient été acquis avant les codes forestiers et qui devait être convertible. On devait solliciter sa conversion conformément à l'esprit du code forestier, l'article 155, c'est-à-dire que la société paye intégralement la rédevance des superficies forestières et disposerait d'une unité de transformation sur le territoire congolais. Alors, une société qui a rempli ces conditions, donc il se voit elle a vu ses pics.
Oui, il y a une inquiétude parce que dernièrement, nous avons tous appris qu'effectivement, il y a eu des travaux au niveau du secteur de l'environnement pour travailler sur la loi cadre de l'environnement, l'avant-projet de la loi cadre de l'environnement. Est-ce que aujourd'hui, la commission qui a travaillé également pour cette conversion a tenu compte de certains éléments inscrits dans cette loi cadre?
Affirmatif. Parce que parmi les critères, il y a eu aussi des critères environnementaux. Il fallait voir si l'exploitation forestière n'avait pas un impact environnemental. Quoique, on n'est pas allé dans le profondeur, parce que, comme vous le dites vous-même, la loi cadre sur l'environnement vient à peine d'être déposée au niveau
du Parlement.
Du Parlement pour l'adoption et discussion. Donc, on n'a pas approfondi dans le détail ces points-là.
Alors, qu'est-ce qui a motivé cette conversion? On cite la conversion, disons, on cite les anciens titres forestiers en contrat de concession forestière. Il y a une motivation particulière?
Oui. La loi portant code forestier, donc la loi 011/2002, prévoit déjà, comme je disais tout à l'heure, dans son article 156, que les détenteurs des anciens titres forestiers, qu'on a appelé garantie d'approvisionnement pour d'approvisionnement en matière ligneuse ou la lettre d'intention, devait les convertir en contrat de concession forestière, pour autant que ces détenteurs respectent la loi en matière d'exploitation forestière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on devait revisiter tous les anciens forestiers et voir que telle société ou personne morale ou physique, non seulement il a un titre forestier qu'on a appelé garantie d'approvisionnement ou la lettre d'intention, mais qu'il respecte toutes les conditions requises en matière d'exploitation forestière à travers la République démocratique du Congo. Voilà. Donc, en fait, c'était une espèce de révisitation.
Vous savez que ce terme, aujourd'hui, en RDC, quand on parle de révisitation, d'aucun pense directement au contrat léonais. Est-ce qu'on peut dire que c'est dans ce sens-là?
Non, je peux au moins vous dire une chose, c'est que il y a des gens qui ont acquis des grandes concessions forestières qui n'ont jamais mis en valeur. Donc, c'est là, en principe, normal, si on révisite et qui ne respectent pas les engagements, ils doivent rendre la forêt à l'État congolais. Donc, c'est un peu aussi la révisitation. Nous avons préféré appeler ça la conversion.
Pardon. Voilà. Alors, parce que vous parlez de la révisitation ou conversion, bon, c'est un problème de terme, mais d'aucuns aimeraient un peu savoir, ça fait une curiosité, quelles sont les statistiques que vous avez, vous, des statistiques d'exploitation forestière, ces trois dernières années, si nous ne prenons que c'est cela?
L'exploitation en termes de production, bon, je peux dire, les trois dernières années, la production déclarée, je dis bien, je précise, la production déclarée aussi entre 400 à 500 000 mètres cubes par an.
Et la RDC a trouvé son compte?
Bon, ça prend ou à laisser. Son compte par rapport à la production, peut-être bien oui, mais par rapport à l'exportation, là, ça se discute, puisque jusque-là, si on prend seulement les derniers chiffres de l'année dernière, ça faisait quelque chose comme 1 800 000 $. Au regard de l'étendue exploitée, on peut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est pour ça que le ministère de l'Environnement s'attelle actuellement à mettre en place un grand programme de contrôle, aussi bien de l'exploitation que de l'exportation.
Mais le cahier des charges proposé par ces exploitants, c'est comme si le gouvernement n'est pas regardant. Selon nos sources, tous ces exploitants n'ont rien fait au bénéfice de la population, et surtout dans les secteurs où ils ont exercé leur... Ils ont entrepris leurs activités.
Non, il a été fait, c'est qu'on ne peut pas généraliser les choses. Ça fait un. Certaines sociétés ont effectivement investi.
Vous en connaissez quelques-unes?
Je peux vous en citer des grandes comme Siporco, je peux vous en citer...
Siporco a fait quoi, concrètement? Au bénéfice de la population?
Il a construit des écoles, il a construit...
Dans quelle partie du pays?
Dans la province de l'Équateur, par exemple.
Combien d'écoles?
10 écoles, 5 écoles, je peux au moins vous dire qu'ils ont...
Des écoles qui ressemblent vraiment à des écoles modernes?
Ben, par exemple, oui, en matériaux
durables. Et pourtant, selon nos sources, la province de l'Équateur est déficitaire en termes d'infrastructures scolaires.
Ça, on peut le dire. En fait, vous savez qu'en matière de l'école et tout ça,
il y a... Et tout récemment, il y a eu même c'est pas moi, une rencontre tripartite entre la province de l'Équateur, la province du Bandundu, ainsi que la province du Kasaï. C'était toujours autour de ce problème où la problématique de l'exploitation forestière, des gens qui travaillent, et la population n'est toujours pas censée.
C'est que j'allais vous dire, si. Il y a quand même c'est ce que j'ai dit tout à l'heure.
C'est des cas isolés.
Ça, je n'en disconviens pas, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'on généralise toujours les choses. Des deux, ce qu'il y a eu, c'était quoi? C'était des arrangements entre les sociétés forestières et les communautés locales. Et généralement, ça se passait à travers les ayants droit, c'est ce qu'on appelle les ayants droit.
Et quelles sont les garanties? Quelques fois, si ça sera la bonne.
Si, il y a une garantie. Et une garantie sûre, le ministre a eu à le dire, c'est que cette fois-ci, il y a formellement un cahier des charges qui a été publié sous forme d'arrêté du ministre et à l'époque de la Sénatrice.
Mais ça, c'est au niveau de dire, le ministre
c'est
l'a
pas,
dit.
Non, ce n'est pas au niveau de dire, parce que le ministre a bien arrêté conformément à l'esprit du code forestier. L'arrêté est là, il y a un modèle de cahier des charges. Et lorsque l'exploitant forestier, un exploitant forestier, ne signe pas, ne négocie pas les cahiers des charges, de façon formelle, signé par les deux parties, cet exploitant, même si son titre est converti, il ne sera pas signé le contrat avec
l'État. C'est une autre chose, c'est une chose, mais l'applicabilité sur le terrain en est une autre. Quels sont les mécanismes de suivi que vous avez mis en place pour aider effectivement cet exploitant à exécuter
Je vous ai dit tout à l'heure, lorsque nous parlions de la production, il était question de savoir qu'est-ce que l'État gagne exactement en termes de production, en termes d'exploitation. Donc, on renforce les contrôles forestiers. Et lorsqu'on renforce les contrôles forestiers, on renforce aussi les services du ministère pour qu'une fois les cahiers de charges signés entre l'exploitant forestier et les communautés locales, on dise, écoutez, moi j'ai juste construit une école. Ce n'est pas un exemple au hasard.
Tout à fait.
En dehors deux ans. Mais nous avons les cahiers de charges. Et donc, après deux ans, on envoie une mission. Vous n'avez pas conçu. En dehors de trois ans, si vous ne respectez pas les engagements qui sont contenus dans les cahiers des charges, l'État est quand même de résumer.
Vous avez des experts qui ont déjà eu à évaluer les besoins réellement exprimés dans certaines parties du pays où il y a l'exploitation forestière, notamment dans la province de l'Équateur, parce qu'il ne faudrait pas que l'exploitant vous amène son cahier des charges. Ça peut aussi ne pas être vrai.
L'État, à travers ses services spécialisés, doit aider la communauté, et ça c'est prévu dans l'arrêté portant cahier de charge, doit aider la communauté dans la négociation. Il n'y a pas que l'État, toutes les parties prenantes, il y a
même la communauté locale, la communauté de base.
Communauté de base, la société civile va aider la communauté, chaque communauté, parce que chaque communauté a ses besoins spécifiques. On ne peut pas généraliser en disant qu'il faut construire des écoles partout, des dispensaires partout, mais va aider communauté par communauté. Il y a maintenant 48 titres. Espérons, c'est 46, peut-être on va arriver à 50 ou à 60, on ne sait jamais.
Oui, parce que
on
peut pas dire ce que nous évitons, c'est que nous évitons, que nous vivons le même film comme dans les secteurs miniers, les opérateurs miniers qui s'en sont pleins en disant que les travaux qu'on leur demande de faire, c'est plutôt le gouvernement qui devait les faire. Donc il faudrait qu'au niveau du cahier des charges, tous les termes de référence soient bien, disons, très clairs.
En tout cas, le modèle est là. Et nous avons tenu, et nous l'avons dit lors des travaux de la conversion, parce qu'il y a eu des délégués, comme je vous ai dit, on les a aidés à comprendre les cahiers des charges. Bien sûr, à l'heure disant, il ne faut pas demander un aéroport, une piste d'aviation. Demandez ce dont vous avez besoin, et les cahiers des charges, les pourront être repris dans les cahiers des charges, que les besoins qui sont réels, et surtout sous forme d'infrastructures socio-économiques et services. Là, je prends l'exemple indispensable qu'on viendrait bien.
Oui.
Il
ne
faut pas demander à ce qu'on vous construise une université.
Là, c'est le cahier des charges le détermine. Ces actions-là doivent être menées à court, moyen ou à long terme.
Les cahiers des charges.
Quelles sont les conditions que vous avez données?
Non, les
conditionnalités, comme l'a dit.
Il y a un modèle, comme je disais tout à l'heure. Les conditionnalités, c'est quoi? C'est que les engagements pris par un exploitant forestier, n'est-ce pas, et avalisés par la communauté, une communauté donnée, en fonction des intensités socio-économiques, je vous dis bien, doivent être respectés en dehors trois ans. De passer trois ans, si l'exploitant ne respecte pas ses engagements, l'État est habilité à résilier le contrat.
Et entre-temps, pendant ces trois ans, l'État reste dans son coin, silencieux, ou il y a un mécanisme de suivi?
Non, le suivi, il est...
Permanent.
Il est permanent, il doit être permanent, parce qu'il y a des infrastructures et la réhabilitation d'un pont. Des ponts en bois, par exemple.
Ça ne peut pas prendre deux ans.
Ça ne peut pas prendre deux ans, donc...
Encore moins six mois.
Par exemple, à ce moment-là... Non, le suivi est régulier. Il n'y a pas que l'État qui le fait. L'État, avec ses partenaires dans la société civile,
télétravail. Et que les rapports
oui, depuis l'année, vous êtes très bien suivi. Il y a un auditeur qui réagit. Nous avons des réactions partout. Il y a M. Malembe du Forum des Amis de la Terre, Boutembo au Nord Kivu, qui dit que le code forestier congolais est imparfait car ne prévoit pas explicitement des sanctions pour les exploitants. Les agents de l'administration ne valorisent pas les communautés locales. En plus, ce sont les agents de l'État qui encouragent cela. Alors, comment réagissez-vous par rapport au code forestier est muet, en tout cas, ne pourra pas expliquer explicitement des sanctions. Alors, comment allez-vous vous y prendre?
Non, je crois que notre collègue qui pose la question n'a peut-être pas eu le temps de
scruter les codes
forestiers. Une des sections concerne les amendes transactionnelles, je crois. Il peut lire ça calmement et échanger.
Il sanctionne
par exemple lorsque l'exploitant forestier, d'abord un, les conventions, la garantie d'approvisionnement et les restes. Lorsque l'exploitant forestier n'arrive pas à payer régulièrement ses taxes vis-à-vis de l'État en dehors de 3 ans, l'État est à même de résilier le contrat. C'est une des préoccupations, une des dispositions du code forestier. Lorsque l'exploitant forestier ne déclare pas le volume conformément à l'autorisation au permis de coupe, il est sanctionné. Il y a toute une litanie de sanctions qui sont prévues dans le code forestier. Ouais. Nous lui demandons de lire ça, et puis il doit comprendre que le code forestier, c'est une loi. Mmh. Et une loi doit avoir des textes d'application, et le code forestier, il y a 43 textes d'application, et le ministre allait dire dernièrement, il y a déjà tous les grands textes d'application. Les codes forestiers sont pris. Donc, au moment où nous parlons, nous pouvons considérer que les codes forestiers sont d'application.
Alors, il faut que il y a un détail que vous donne un auditeur. Il s'appelle Ngosolo, il est à Bounia. Il dit il faut que l'État congolais donne des moyens logistiques et des salaires consistants aux agents de l'environnement pour bien contrôler le secteur. Là, nous revenons encore sur cet aspect corruption. Parce que ces gens qui sont commis au poste de contrôle pour aller faire le suivi d'une manière permanente, encore faut-il qu'ils aient des moyens de leur politique, sinon ils vont tomber dans le piège de tous ces exploitants qui ont des moyens conséquents.
Je rassure notre auditeur que le ministère s'attelle à trouver effectivement les voies et moyens pour le renforcement des capacités de nos agents, aussi bien au niveau des territoires qu'au niveau des districts et au niveau des provinces. Et pour ce faire, je l'informe que le ministère est en négociation avec la Banque mondiale et parmi les provinces pilotes qui sont sélectionnées dans ces cas-là, à ces conseils, les renforcements de capacités. Renforcement de capacités, c'est la formation, c'est la
formation permanente.
Il y a la province orientale qui est parmi les 3 provinces.
Et province de l'Équateur.
Et la province de l'Équateur, la province de Bandundu. Donc ça, c'est dans une première phase.
Donc
c'est
les provinces pilotes.
Pour essayer. On va aller de l'avant et ça va concerner toute la
voilà. Donc on va s'arrêter là pour voir comment on va faire le suivi. Mais tous les auditeurs à bon temps, c'est dans le même sens. Marmotte de Manono. D'ici l'État congolais veut réglementer l'exploitation des forêts qui constituent en grande partie l'unique moyen de survie pour les administrés et d'améliorer le social. Donc il faut vraiment tenir compte de la population qui doit trouver son compte par rapport à cette conversion et également les agents commis pour les contrôles doivent aussi les faire vraiment en toute liberté et penser avec un esprit patriotique. Monsieur Ilanga, José, on ne veut pas tout obliger aujourd'hui parce que nous nous rendons compte que la matière est vaste. Nous allons revenir très prochainement pour faire le suivi, pour voir comment et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et quelle est l'étape d'avancement de cette initiative. Nous rappelons que vous êtes le conseiller au ministère de l'Environnement et du Tourisme en charge des forêts. Merci d'avoir été des nôtres et surtout merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à moi de vous remercier et à la prochaine.